Et c'est Thomas Cluzel qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Entamée depuis une semaine, la campagne de vaccination en France contre le Covid-19 continue de susciter une vive polémique pour sa lenteur. Ce matin encore, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a dénoncé rien de moins qu'un scandale d'État, au point que face à toutes ces critiques, le gouvernement a décidé d'accélérer la cadence.
C'est aujourd'hui la rentrée des classes, Thomas, une rentrée particulière s'agissant des universités, puisqu'elle s'effectuera en grande partie en distanciel.
Oui, un contexte qui semble fragiliser notamment un nombre toujours plus croissant d'étudiants, et pour en parler, invité de la rédaction aujourd'hui, Florian Tirana, président de Nightline, une plateforme d'écoute et de soutien psychologique.
Et nous poursuivrons la discussion avec l'invité de la deuxième partie de la Grande Table, la philosophe Barbara Stiegler, qui signe « Démocratie en pandémie ». C'est un tract qui paraît chez Gallimard, où elle nous plonge dans l'université confinée. Et on évoquera ensemble la question du partage des savoirs, comment procéder aujourd'hui. Les actionnaires de Peugeot, Citroën, ont approuvé ce matin la fusion du groupe français avec l'italo-américain Fiat Chrysler.
Oui, un mariage qui doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial. Reste à savoir s'il s'agit là du seul enjeu de cette union. Enfin, Julian Assange ne devrait pas être extradé vers les États-Unis. Ainsi, on a décidé ce matin la justice britannique à l'égard de celui que l'Amérique accuse d'espionnage après la publication de centaines de milliers de documents confidentiels, les fameux WikiLeaks. Est-ce parce que la stratégie prudente adoptée par les autorités pour apaiser les craintes de la population face au vaccin se sera révélée contre-productive? Toujours est-il qu'après un démarrage laborieux au regard de ses voisins européens, la France a donc décidé d'accélérer sa campagne de vaccination, et en particulier en avançant le calendrier d'administration des doses au personnel de santé âgé de 50 ans et plus, jusque-là placé sur liste d'attente et chargé désormais, en somme, de montrer le bon exemple. Hier, environ 140 d'entre eux ont pu se faire vacciner à l'Hôtel-Dieu, et depuis ce matin, une dizaine d'autres sites disposant de centres de vaccination ont été ouverts. Reste malgré tout les chiffres éloquents, moins de 1000 personnes vaccinées en France sur le territoire ce 4 janvier, contre plus de 200 000 en Allemagne et 85 000 en Italie. Alors plusieurs raisons existent pour expliquer en partie ce retard, dont notamment le refus des autorités d'ouvrir des vaccinodromes, mais pas seulement, on notera aussi les autorisations nécessaires réclamées dans les EHPAD et parfois difficiles à obtenir, sans oublier les consultations préalables requises chez le médecin, pour éviter les accusations de vaccination obligatoire. Alors ce matin, interrogé chez nos confrères de France Inter sur cette stratégie vaccinale qu'elle a elle-même élaborée, la présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, Elisabeth Bouvet, a estimé que la campagne devait probablement s'accélérer tout en récusant le terme de désastre. Elisabeth Bouvet, qui est interrogée sur le rythme de cette vaccination, a toutefois répondu à Tarin Schlegel que ce n'était pas là le choix de son institution qui conseille pourtant le gouvernement.
Les informations arrivent au compte-gouttes sur la logistique mise en place par le gouvernement. On a bien compris qu'Olivier Véran, sous l'impulsion d'un Emmanuel Macron fâché, a décidé d'accélérer les choses. Mais dans les faits, autour de 500 personnes seulement ont eu accès aux précieuses piqûres en France quand Israël ou l'Angleterre dépassent le million. Ce matin, sur France Inter, donc Elisabeth Bouvet l'a confirmé, la stratégie vaccinale prônée par la Haute Autorité de Santé se base bien sur l'idée qu'il faut prioriser les personnes vaccinées, autrement dit, commencer par les plus fragiles, en EHPAD, comme le fait le gouvernement, et par les soignants à risque. Mais la HAS n'a pas recommandé une procédure aussi tatillonne, a admis Elisabeth Bouvet, répondant à Léa Salamé.
Ceci a été écrit avec l'idée qu'il fallait bien sûr que les personnes donnent leur accord pour être vaccinées de façon orale, de façon simple, et qu'il y ait un médecin.
Mais ça va trop lentement, ça, par exemple, le consentement qui doit durer plusieurs jours, est-ce qu'il faut le raccourcir?
Nous ne l'avons jamais demandé, ça n'a jamais été demandé par la Haute Autorité de Santé.
Mais alors, ça vient d'où, madame?
Je ne sais pas.
Qui décide qu'on doit demander à la personne âgée son consentement, attendre 5 jours ou 4 jours avant de la vacciner? C'est les politiques?
Moi, je vous dis ce que nous avons écrit. Vous pouvez regarder la stratégie que nous avons écrite. Elle est absolument accessible partout. Il n'a jamais été demandé qu'il y ait cette lenteur et ce temps.
Or, ces rétractations, ces consentements écrits compliquent beaucoup les choses. C'est du moins l'hypothèse qu'on peut formuler. Car en ce qui concerne l'acheminement des doses vers les EHPAD et un éventuel retard, le ministère de la Santé ne répond pas aux demandes d'information. On sait juste que la France a reçu 60 000 doses déjà, qu'elle aura 500 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech cette semaine, que les flacons arrivent sur 6 plateformes de distribution et qu'il faut bien s'organiser car une fois sortis du congélateur à moins 80 degrés, les doses se conservent seulement 5 jours au frigo. Mais c'est vraiment tout ce qu'on sait. Or, la transparence, maintes fois prônée par les politiques, fait ici vraiment défaut, au moment où, à l'inverse, il faudrait pouvoir expliquer précisément aux Français comment nous stockons et distribuons le précieux liquide, celui qui représente l'espoir, nous a dit le chef de l'État en ce début d'année 2021.
Alors, s'agissant toujours de cette polémique sur la stratégie du gouvernement en matière de vaccination, ce matin, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a lui pointé du doigt à la fois l'impréparation et l'irresponsabilité des autorités. Une manière d'associer ces retards aux leçons, selon lui, non tirées depuis le début de la pandémie, qu'il s'agisse de l'exemple des masques ou des tests. Pour autant, ce qui ressemble de plus en plus aujourd'hui à une affaire d'État ne saurait faire oublier une autre réalité, selon un sondage publié hier soir et réalisé juste avant Noël. 58% des Français interrogés ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus. C'est 8 points de plus que le mois dernier. Or, les autorités le savent, à présent que la course au vaccin est lancée avec l'objectif de prémunir au plus vite la population, c'est bien souvent sur ce seul critère de performance qu'elle risque en effet d'être jugée. Et c'est ainsi, par exemple, que le gouvernement a décidé à partir d'aujourd'hui de tirer au sort 35 citoyens qui seront chargés de se prononcer sur la stratégie vaccinale française. Un collectif qui va donc s'ajouter, on en parlait un instant, à la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, mais aussi au conseil scientifique ou bien encore au conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, pour ne citer que, ou quand l'exécutif Rosalie Lafarge semble vouloir ici multiplier les intermédiaires susceptibles d'endosser une part de responsabilité.
Cet exécutif, il a un peu changé de ton ces derniers jours. Après une lenteur assumée au démarrage par le gouvernement sous couvert de nécessaire pédagogie, l'heure est à l'accélération, au moins dans les mots, et ceux du président lui-même. Le JDD s'est fait l'écho de la colère d'Emmanuel Macron ce week-end. Le chef de l'État juge que ce n'est pas à la hauteur du moment. Pas à la hauteur, il n'est pas le seul à le penser. On avance beaucoup trop lentement pour le président Les Républicains de la région Grand Est que vous citiez, Jean Rottner, invité de France 2 ce matin.
Aujourd'hui, on est face à un scandale d'État. On poursuit finalement une politique qui a fait les preuves de son échec dans le passé, les masques, les tests. Aujourd'hui, la vaccination, il faut accélérer. On est en guerre, ça a été dit par le président, donc c'est pas dans 15 jours. Quand on est en guerre, on va pas se poser la question de ce qu'on va faire dans 15 jours, mais de ce qu'on fait aujourd'hui.
Et même dans la majorité présidentielle, des voix s'élèvent pour demander une accélération. Le député La République En Marche de l'Hérault, Patrick Vignal, appelle dans une tribune à sonner la charge contre le virus.
Nous devons oser aujourd'hui. La France est fracturée. Et donc, comment on peut monter sur un tatami, moi qui suis judoka, en disant « je vais démarrer doucement mon combat ». Mais franchement, dans quel monde on est ? On démarre une campagne ou on démarre à petits pas, mais il faut le démarrer à charge lourde.
Le gouvernement l'assure, l'accélération est engagée, mais il tempère. On ne juge pas le succès d'une campagne vaccinale au bout de 7 jours. L'idée, c'est toujours d'essayer d'associer le plus largement possible la population. Et cela passe notamment pour l'exécutif par le tirage au sort de ces 35 Français.
Après avoir été le premier pays d'Europe à autoriser le vaccin élaboré par Pfizer-BioNTech, le Royaume-Uni est devenu ce matin à nouveau le premier pays à administrer à sa population, cette fois-ci le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'université d'Oxford. Rappelons que le dit vaccin a également été autorisé par l'Argentine, ainsi que l'Inde, ce qui va permettre au sous-continent et ses 1,3 milliard d'habitants de démarrer une des campagnes de vaccination les plus massives du monde. Sans compter que ce vaccin a l'avantage d'être moins coûteux et plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation à grande échelle que ses deux concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech. Et puis toujours au Royaume-Uni, l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19, j'ajoute que le Premier ministre britannique a averti que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre. En Écosse, cette fois-ci, de nouvelles restrictions devraient être annoncées aujourd'hui. Selon la presse, la rouverture des écoles devrait être repoussée au 18 janvier. Enfin, la Norvège, où le taux de contamination au Covid-19 est pourtant l'un des plus faibles d'Europe, a elle d'ores et déjà annoncé de nouvelles mesures, parmi lesquelles la fermeture des universités. À l'inverse, au Kenya, après 9 mois de fermeture suite à la pandémie, 16 millions d'écoliers ont repris le chemin de l'école ce matin, avec d'ores et déjà une angoisse pour les autorités, celle que cette longue fermeture n'ait pour conséquence un décrochage scolaire massif. Reportage dans une école de la capitale Nairobi, signé Charlotte Simonard.
Dans cette école publique de Nairobi, les cris et les rires des écoliers ont réinvesti les lieux. Devant la grille, ce père de famille dépose ses enfants avec enthousiasme.
C'est un jour fantastique. Les enfants étaient tellement frustrés de rester à la maison. Ils font partie de ces enfants qui ont besoin d'être en groupe pour apprendre.
Derrière leurs masques, les petits yeux rieurs des enfants témoignent de leur bonheur d'être de retour à l'école, comme James, 7 ans, et Michel, 15 ans.
Je suis heureux de revenir à l'école. L'école, c'est bien parce qu'on lit beaucoup et on grandit. Mes copains m'ont manqué.
C'était ennuyeux. J'étais avec ma maman, je travaillais avec elle à faire des ménages, mais je devais faire mes devoirs. Cela me rendait nerveuse.
Pour les professeurs, c'est un défi qui se profile. Madame Lydia s'interroge sur le respect des règles sanitaires.
Je ne sais pas comment on va faire. Nous ne sommes que 10 professeurs pour 500 enfants. Et ils doivent être mis à distance.
Elle craint également que beaucoup d'enfants ne reviennent pas à l'école.
Tellement de parents ont perdu leur emploi et ont dû retourner dans leur village, car ils ne peuvent plus vivre en ville. Un grand nombre d'enfants ne reviendra pas, au moins 10%.
Comme ici, beaucoup s'inquiètent d'un décrochage scolaire important en ce jour de rentrée.
Un reportage à Nairobi signé Charlotte Simonard. Retour en France à présent pour parler toujours et encore en ce jour de rentrée des classes des conséquences de la crise sanitaire sur les élèves et plus précisément sur les étudiants. Il semble que leur santé mentale ait été fragilisée en raison des deux confinements, sans oublier les couvre-feux nocturnes. Et c'est ainsi que pour leur venir en aide, eh bien, des plateformes d'écoute avec accompagnement psychologique ont vu le jour, parmi lesquelles Nightline, une association qui organise une hotline nocturne de soutien psychologique, notamment à Paris, mais aussi Saclay, Lyon ou bien encore Lille. Et pour en parler avec nous, invité donc de la rédaction aujourd'hui, Florian Tirana, président de Nightline France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors c'est aujourd'hui, je le disais, la rentrée universitaire, une rentrée particulière puisqu'en grande partie en distanciel, seuls les étudiants jugés les plus fragiles vont pouvoir reprendre en présentiel et par groupe de 10. Ça charge d'ailleurs pour les universités de définir les critères de sélection à compter du 20 janvier. Et en fonction toujours de l'évolution de la situation sanitaire, là, les travaux dirigés pourront à leur tour reprendre en présentiel, mais uniquement pour les étudiants de première année. Et puis pour tous les autres, donc ils devront attendre sans doute encore plusieurs semaines. On aurait pu penser que les étudiants se seraient habitués, au fond, à cet enseignement à distance. Et visiblement, monsieur Tirana, ce n'est pas le cas.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a connu depuis la rentrée plusieurs modes d'enseignement à distance, avec le complètement distanciel, puis une ouverture partielle. Ce qui est sûr, c'est que pour une grande majorité d'étudiants, aucun de ces systèmes n'est vraiment finalement très très pertinent. Il y a eu une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante qui est sortie il y a quelques mois, qui a montré que 45% des étudiants ont eu un impact négatif, voire très négatif, sur leur suite d'études à cause du confinement. Et on voit bien que être en distanciel, ça remplace jamais une présence physique. Donc, bien sûr, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir revenir en présentiel tous. Et on espère que ça pourra avoir lieu le plus vite possible.
Alors justement, de quelles difficultés psychologiques vous font part les étudiants qui vous appellent ?
Alors, dans le service d'écoute qu'on tient toutes les nuits à Nightline, les gens nous appellent pour beaucoup de raisons différentes, mais les choses qui reviennent le plus, c'est la solitude, les difficultés qui sont liées aux relations amoureuses, familiales, amicales. Il y a aussi beaucoup d'appels qui sont en lien avec une angoisse liée à la poursuite de leurs études, un stress, une crainte aussi du décrochage. Donc finalement beaucoup de choses en lien avec les études et beaucoup de choses aussi en lien avec ce qu'on peut appeler les problèmes relationnels ou la manière dont on vit ensemble qui a été très affectée par la fermeture des universités, par le confinement de manière générale.
Votre plateforme a notamment une particularité, celle de proposer un soutien la nuit. Pour quelles raisons ? Est-ce uniquement pour des questions d'organisation ou bien les étudiants ont-ils davantage besoin d'écoute et d'accompagnement le soir ?
Alors oui, c'est ce qui nous différencie de pas mal de services de soutien. Donc nous, on est ouvert toutes les nuits de 21h à 2h30 du matin. C'est un moment un peu particulier puisque c'est un moment où tous les services sont fermés, enfin la grande majorité. Et c'est aussi un moment où les étudiants se retrouvent chez eux, seuls, en particulier depuis la période Covid, et où donc ça peut être particulièrement difficile de vivre cette solitude ou de vivre un stress ou une angoisse quelconque. Et c'est pour ça qu'on est ouvert à ce moment-là, à un moment où personne d'autre ne l'est, pour pouvoir échanger en direct entre étudiants.
Peu de temps après l'annonce du deuxième confinement, c'était à l'automne, les appels auprès de votre plateforme ont bondi, je crois, de 40%, quelques jours seulement plus tard. De quels étudiants parle-t-on ? S'agit-il des néo-bacheliers ou bien majoritairement de ceux en situation de précarité numérique ? Y a-t-il, en somme, une catégorie plus fragile que les autres ? Ou bien est-ce que l'isolement frappe, au fond, tous les étudiants ?
Alors le service d'écoute est anonyme, donc on n'a pas toujours les informations exactes sur qui nous appelle, exactement dans quelle situation. Ce qu'on peut voir de manière générale, c'est que c'est très global. Il y a des étudiants de la L1 jusqu'à la dernière année de doctorat. Il y a des étudiants étrangers comme des étudiants français, des étudiants qui viennent de grandes villes étudiantes comme de plus petits établissements. C'est très diversifié, mais en revanche, il y a oui des marqueurs qui sont des sources de détresse psychologique forte et parmi lesquels on peut notamment noter les problèmes de logement, les problèmes d'argent forcément. Tout ce qui est lié aux problèmes familiaux, donc la manière dont les étudiants ont été confinés, dans quel lieu, c'est des choses qui reviennent beaucoup, mais après on peut pas exclure d'autres aspects bien sûr auxquels on n'a pas forcément une vision nous en tant que service d'écoute anonyme.
Alors pardon de poser la question aussi abruptement, mais est-ce qu'une simple écoute, j'allais dire, suffit à accompagner ces étudiants?
Alors c'est une très bonne question. Effectivement, nous on n'a pas du tout la prétention de remplacer des professionnels de la santé mentale comme des psychologues ou des psychiatres. On est simplement des étudiants qui sont formés à l'écoute active. Donc on est là pour offrir une oreille la nuit, simplement écouter les gens et on... C'est pas du tout, le but n'est pas de trouver des solutions à leurs problèmes, n'est pas de les accompagner dans la suite de leur vie, mais simplement d'être là pour les écouter. Et on considère que dans un moment comme celui qu'on vit actuellement, c'est extrêmement précieux parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un à qui parler, on n'a pas toujours le bon interlocuteur et une personne qui peut être là pour nous écouter, pour vraiment faire cet effort de suivre notre parcours, nos angoisses, nos problèmes. Et c'est à ça que sert notre service d'écoute. Bien sûr, pour ce qui est d'un suivi, c'est pas du tout le but et on renvoie d'ailleurs vers des professionnels et des services d'écoute publics lorsque les étudiants nous en font la demande.
Merci Florian Tirana, président, je le rappelle, donc de Nightline France, d'avoir répondu à notre invitation.
Midi 47 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Sans surprise, les principaux actionnaires de PSA ont approuvé ce matin à la quasi-unanimité des voix le projet de fusion avec Fiat Chrysler, une union annoncée fin 2019, mais dont la préparation a été ralentie par la crise du coronavirus. Alors ce mariage franco-italo-américain, conçu pour atteindre une taille critique sur un marché automobile en pleine révolution, doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus et au troisième en termes de chiffre d'affaires. Sauf que dans tout projet de fusion, eh bien, un objectif tout particulièrement inquiète évidemment les salariés, celui des synergies qui seront être trouvées, souvent synonymes de suppression d'emplois, et c'est ainsi que les syndicats redoutent déjà de potentielles conséquences sur les sites situés en France. Mais en attendant, essayons de voir avec vous, donc Hakim Kasmi, quels sont les enjeux de cette fusion.
Avec cette fusion à 50-50, le groupe espère réaliser jusqu'à 5 milliards d'euros d'économies d'échelle. Il faut dire qu'avec un portefeuille de 14 marques, allant de la voiture populaire à celle de luxe avec Maserati, le panier de la mariée sera bien garni. Flavien Nevy, le directeur de l'Observatoire CTLM.
L'industrie automobile, c'est une industrie lourde, c'est des usines, c'est des plateformes, et que donc à chaque fois c'est beaucoup beaucoup d'argent. Et depuis maintenant plusieurs années, les constructeurs essayent évidemment de réduire leurs coûts de production en faisant en sorte qu'une plateforme serve à construire plusieurs modèles. Et évidemment, si une plateforme sert à construire énormément de modèles, ça réduit les coûts unitaires, et donc cette fusion permettra là encore de faire des économies, et les économies générées permettront d'investir notamment dans la recherche et développement pour préparer le futur.
Un futur qui passera aussi par plus de complémentarité, car PSA reste aujourd'hui très dépendant du marché européen, alors que Fiat Chrysler, lui, est très présent en Asie, contrairement à PSA qui connaît de très mauvais résultats dans ce continent. En revanche, PSA, lui, apportera un véritable savoir-faire en ce qui concerne la voiture électrique et hybride, ce qui sera très utile avec le renforcement des normes anti-pollution que va imposer Bruxelles.
Avec des objectifs très ambitieux à atteindre d'ici 2030 en matière de réduction des émissions de CO2. Dans ce cadre-là, les constructeurs n'ont pas le choix. Il faut qu'ils investissent massivement dans la voiture électrique et la voiture hybride. Et c'est ce que PSA aura les moyens de faire avec ce nouvel ensemble.
Reste désormais à rassurer les syndicats qui craignent des suppressions de postes avec les doublons, mais aussi à cause de la crise sanitaire qui a fait chuter les résultats des constructeurs automobiles.
Alors, on vient de l'entendre, l'économie de demain sera faite, entre autres, et toujours, de fusions et de grands groupes devenant des géants, mais des initiatives innovantes et audacieuses émergent également. C'est le sujet de notre nouvelle chronique, l'écho en transition, tous les lundis dans le journal de 18h. Ce soir, Annabelle Grolier viendra vous parler de trois agriculteurs gersois qui cultivent du coton en France pour fabriquer une ligne de vêtements dans l'Hexagone. L'occasion de donner un coup de projecteur sur une tendance à la mode à la fois éthique et durable.
La tendance est pour toutes les entreprises à la mode éthique et durable, mais cela n'est pas toujours motivé par des préoccupations écologiques ou socialement éthiques. Ce ne sont que les conséquences économiques d'un secteur qui va mal. Selon les dernières études de l'Institut français de la mode, plus de 80% des grosses entreprises pensent que vendre des produits éthiques éco-responsable ou durable peut améliorer leur image et 65% que cela peut augmenter leur chiffre d'affaires. Et en effet, ça trouve son public. 21% des Français ont déjà acheté un produit de mode éthique et 70% pensent qu'un produit durable et équitable peut justifier une hausse de prix. Le bon côté, c'est que la mode éthique apporte de l'innovation dans l'usage de nouveaux matériaux, le recyclage de fibres des vêtements déjà portés. Le mauvais est qu'il ne résout pas les problèmes de surconsommation. Pour rappel, d'après l'ADEME, le secteur de la mode émettrait chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2% des émissions mondiales. Si les tendances de surconsommation massive se poursuivaient, ce chiffre pourrait atteindre 26% des émissions mondiales d'ici 2050. La culture du coton conventionnel utilise également environ 25% des pesticides consommés dans le monde. Le coton est une plante subtropicale qui théoriquement ne pousse pas en France. Il faut avoir une âme de pionnier pour se lancer dans une telle entreprise, mais le réchauffement climatique poussera de plus en plus les agriculteurs à explorer et innover pour s'adapter aux nouvelles contraintes climatiques qui pourront aussi devenir de nouvelles opportunités. À l'image de ces trois jeunes agriculteurs gersois, la société Jean-Phil qui cultive du coton et produisent une ligne de vêtements 100% made in France.
Voilà, et l'écho en transition, c'est donc désormais tous les lundis dans le journal de 18h, mais aussi à retrouver plus en longueur sur franceculture.fr. Terroristes high-tech ou héros traqués de la liberté d'informer, ça peut dire que l'image du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, se sera troublée au fil des années, et en particulier depuis que ses révélations, souvent au détriment des États-Unis, ont alimenté les soupçons de collusion avec la Russie. Toujours est-il que c'est depuis la prison où il est incarcéré à Londres que l'Australien à la chevelure argentée attendait ce matin de savoir si la justice britannique allait répondre favorablement ou non à la demande d'extradition formulée par les États-Unis. Et finalement, Richard Place, eh bien, la juge a donné raison au Cyber Warrior en refusant son extradition vers les États-Unis.
Oui, les supporters de Julian Assange, la poignée qui s'est réunie ici devant le tribunal de Londres, a explosé de joie à l'annonce de cette nouvelle qui s'est propagée petit à petit via les réseaux sociaux dans cette petite foule qui a bravé le froid, la pluie glaciale ici sur Londres et aussi les restrictions sanitaires drastiques. Ils se sont tombés dans les bras, tant pis pour le virus. Ils sont heureux, ravis de constater que cette fois, Julian Assange, la justice britannique, lui a donné raison et considère qu'il n'est pas prudent de l'extrader aujourd'hui vers les États-Unis. En fait, la juge qui a rendu cette décision aujourd'hui se range aux arguments de la défense du fondateur de Wikileaks et considère qu'il serait dangereux pour sa santé de l'extrader vers les États-Unis, où il serait détenu dans des conditions encore plus dures que celle qu'il connaît actuellement en Angleterre, et il pourrait donc attenter à sa vie, comme l'avait précisé un expert lors de l'audience qui a duré plus d'un mois en cette rentrée. Julian Assange ne sera donc pas extradé depuis l'Angleterre vers les États-Unis, sauf, car il y a encore une possibilité, un recours, et d'ores et déjà il y a un appel sur cette décision, donc elle n'est pas définitive à ce stade. Cet appel sera examiné par la Haute Cour de justice britannique, mais pour aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le camp Assange et désormais la question de sa libération se pose.
Donald Trump et Joe Biden convergeront tous les deux vers la Géorgie aujourd'hui pour soutenir leurs candidats respectifs à la veille d'une double élection sénatoriale décisive. Les deux sièges en lice pourraient en effet faire basculer la Chambre haute dans le giron démocrate. Mais si depuis hier tout le pays s'agite, c'est en raison d'un enregistrement sonore dévoilé par le Washington Post et qui fait d'ores et déjà l'effet d'une bombe, et pour cause, dans un appel stupéfiant, on y entend Donald Trump demander aux responsables en charge des élections en Géorgie de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans cet état clé. Le président sortant n'hésite pas d'ailleurs à adopter un ton menaçant envers son interlocuteur, lequel ne s'est toutefois pas laissé intimider avant de confirmer que les résultats de l'élection réexaminée sont correct ou Toucan, en dépit des audits, des nouveaux comptages et des multiples décisions des tribunaux à son encontre, Donald Trump refuse donc toujours de concéder sa défaite. Enfin, c'est dans une ambiance électrisée par le suspense autour de la majorité au Sénat que le nouveau Congrès a lui pris ses fonctions hier à Washington après que la démocrate Nancy Pelosi a remporté pour la 4e fois la présidence de la Chambre des représentants. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi dominé par la grisaille avec de faibles chutes de neige par endroits au nord de la Seine mais aussi dans la basse vallée du Rhône de même que sur le Piémont. Quant aux températures, elles afficheront entre 2 et 9 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.